Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 12 avril, testez-vous en toute liberté. Les autotests arrivent aujourd'hui dans les pharmacies, enfin celles qui ont été livrées, c'est le bug du jour. Mais le top départ est donné. Un nouveau vaccin arrive en France, celui de Johnson & Johnson. Nous verrons quelles sont ses particularités. Aller vers, c'est le nom de l'opération que vient de lancer l'assurance maladie pour répertorier toutes les personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas encore été vaccinées et leur proposer une date. Le directeur général de la CNAM, Thomas Fatome, sera l'invité de ce journal. Dans RTL Midi aussi, le procès des policiers de la BAC Nord de Marseille accusés d'avoir détroussé et racketté des voleurs et autres dealers. Deux religieux français, cinq haïtiens enlevés à Haïti. Un gang réclame une rançon $1 million. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Vive les lunettes de soleil et la doudoune.
Oui, c'est ça, c'est la bonne panoplie. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de soleil cet après-midi dans la plupart des régions. Il restera un petit risque d'averse sur les Alpes, sur le relief Corse, averse forme de neige d'ailleurs dès 500 ou 600 mètres et parfois accompagné d'orages, mais ailleurs c'est bien le soleil qui s'imposera. On notera quand même quelques développements nuageux circulant au nord de la Seine avec peut-être une averse avant la fin de la journée, rien de moins sûr. Et puis côté température, vous l'avez dit, du froid, retour des gelées ce matin et cet après-midi, pas plus de 8 à 12 degrés dans la moitié nord, on est loin des valeurs de saison, 12 à 16 degrés, pas plus dans la moitié sud.
La question du jour sur RTL.fr, doit-on reporter une nouvelle fois les élections régionales prévues en juin? Eh bien, vous êtes 56% à nous dire non, il y a 35% de oui. On attend vos arguments, 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour. La vaccination est élargie dès aujourd'hui à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Je me pose la question depuis 8 heures ce matin.
Vous êtes éligible.
Je suis éligible, comme vous dites, mais je vais y aller. Depuis l'arrivée du Covid-19, est-ce qu'on est tombé dans une époque de délation? Et c'est Éric Dupond-Moretti qui a souligné ce climat d'aujourd'hui. Là aussi, ça sera intéressant de vous écouter. Le tribunal administratif de Grenoble oblige le maire d'Albertville en Savoie à autoriser la construction d'une école musulmane privée. Ça fait fortement réagir. Et évidemment, les élections régionales seront au menu tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Ils sont poursuivis pour avoir volé de la drogue, de l'argent, des cigarettes à des voleurs et autres dealers. Sont-ils vraiment des ripoux? Se sont-ils comportés en cow-boys au mépris de la procédure? 16 policiers de la brigade anticriminalité des quartiers nord de Marseille comparaissent en correctionnel pour des méthodes pour le moins douteuses. 3 d'entre eux ont été révoqués et à l'ouverture du procès, Étienne Baudu, ils se disent bien décidés à défendre leur honneur.
Oui, ils défilent les uns derrière les autres. Pourquoi ont-ils choisi cette brigade anticriminalité, demande la présidente. Pour l'un, je suis né dans ces quartiers, ma femme aussi, j'y ai grandi. Et puis, le métier de policier, hein, c'est saisir, interpeller et on repart sur le terrain. Pour un autre, je me sentais utile avec une bonne équipe. Un troisième, dans cette brigade, on bossait pour les gens, on était policier même en dehors du boulot et de rappeler ses bons états de service avant l'affaire. Et puis la présidente leur demande quelle est leur vie depuis 2012. L'un est resté dans la police après 3 mois d'exclusion. Il est toujours gardien de la paix à Montauban. Et puis il y a ceux qui ont été révoqués. Bruno Carrasco, 60 ans. La police était toute ma vie, être là pour les gens. Et il rappelle aussi avoir sauvé une jeune fille du suicide. Il a ressenti le besoin d'écrire un livre pour laver son honneur. Il a aussi inspiré le personnage principal du film Bac Nord réalisé par Cédric Jiménez. Régis Dutot, 41 ans aujourd'hui. Le métier me manque. J'ai perdu mon salaire, mon honneur. J'ai mis ses 10 ans à me reconstruire. Il est aujourd'hui infirmier à la prison des Baumettes pour aider les autres, dit-il, comme quand j'étais policier.
Étienne Baudu en direct du Palais de Justice de Marseille pour RTL. Testez-vous où vous voulez, quand vous voulez. Les autotests débarquent aujourd'hui dans une pharmacie sur 4, en principe, car dans les faits, ils sont encore rares. Et ça agace beaucoup certains patrons d'officine, comme Philippe Fouque, qui est pharmacien au Chambon-Feugerolles, près de Saint-Étienne.
C'est malheureux parce que ça participe un petit peu à ce climat, un petit peu d'incompréhension des gens avec l'information actuelle qui tourne quand même en boucle. Tout le monde est au courant, donc tout le monde est persuadé que les tests sont en officine. Donc automatiquement, il y a incompréhension et nous, on doit justifier. Il aurait peut-être été préférable de tout caler avant de lancer sur les grandes ondes cette idée que les tests étaient en officine.
Alors, dans l'absolu, vous pourrez réaliser vous-même votre prélèvement nasal si vous avez plus de 15 ans. Le résultat arrive en moins d'une demi-heure. Jean-Philippe Massardier, directeur du service de distribution des autotests Biospidia, nous donne le mode d'emploi.
Il suffit de prendre un écouvillon, de venir le placer dans la narine pour à peu près 3 à 4 cm à l'intérieur de la narine, de tourner 5 à 10 fois, de venir intégrer ça dans une petite éprouvette avec 8 gouttes de réactif et de verser 2 gouttes de ce réactif enduit de prélèvement dans une petite cassette d'évaluation qui va vous permettre en 10 à 15 minutes d'identifier si oui ou non vous êtes positif au Covid. La fiabilité est de 91%.
Voilà le mode d'emploi au micro RTL de Bertrand Frachon. Et si vous êtes positif, il faut bien sûr ensuite doubler ce résultat par un test PCR et vous déclarer auprès de l'assurance maladie pour qu'on puisse tracer vos cas contacts. L'autre nouveauté du jour, c'est la vaccination qui s'ouvre aux plus de 55 ans chez les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers avec le sérum d'AstraZeneca et bientôt aussi avec le vaccin de Johnson & Johnson. Les premières livraisons commencent aujourd'hui. Quelles sont ses particularités, Agathe Landais ?
Eh bien d'abord, il a un avantage logistique, car il est facile à conserver 3 mois dans un frigo normal si le flacon est fermé. Pas besoin de super congélateur. Il sera donc disponible en médecine de ville, vous l'avez dit, chez les pharmaciens, les généralistes, les sages-femmes ou encore chez les infirmiers, exactement comme le vaccin AstraZeneca. Autre particularité, il ne nécessite qu'une seule injection. Pas besoin de faire un rappel plusieurs semaines après. Ça veut donc dire qu'on pourra vacciner plus de personnes avec les doses livrées. Le vaccin Janssen protège à 85% des formes graves. C'est le seul vaccin d'ailleurs dont on est certain de l'efficacité sur les variants sud-africains et brésiliens. Ces essais cliniques ont en effet été réalisés en partie en Afrique du Sud et au Brésil au moment où les variants étaient déjà majoritaires là-bas. Enfin, juste un mot sur les effets secondaires. Ils sont mineurs. Les plus courants sont une douleur au bras, des migraines, des courbatures et un petit peu de fatigue après l'injection.
Merci Agathe. Autre précision, à partir de mercredi, pour toutes premières injections de vaccins ARN messager Pfizer ou Moderna, il y aura un rappel non plus à 28 jours, mais à 42 jours. Olivier Véran, le ministre de la Santé, veut vacciner le plus de monde possible avec les premières doses. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas encore été vaccinées. La Caisse nationale d'assurance maladie a lancé il y a quelques jours l'opération Aller Vert. Et le directeur général de la CNAM, Thomas Fatome, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ça représente combien de personnes ?
Alors aujourd'hui, le nombre de personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinées, c'est un peu plus de 2 millions de personnes. Ce chiffre, évidemment, il évolue chaque jour, puisque vous avez vu le rythme de la vaccination est en ce moment particulièrement élevé, mais on est à peu près à 2 millions de personnes.
Alors vous allez les contacter comment ?
Alors on va utiliser en fait différents canaux, ce qu'on a commencé à faire déjà depuis une dizaine de jours. D'abord on les appelle directement, on croise nos bases de données justement pour les identifier. Donc appel direct vers la personne. On leur met aussi à disposition un numéro vert et on les sollicite par SMS. On envoie à peu près 200 000 SMS par jour. Et puis avec ce message, justement, ils nous rappellent sur le numéro vert et là, on peut prendre le rendez-vous. Et puis, ce qu'on va faire aussi cette semaine, je termine juste, c'est qu'on va écrire à ceux dont on n'a pas les coordonnées. On n'a pas toutes les coordonnées téléphoniques, portables ou fixes. Et donc, on va écrire à un peu plus d'un million de personnes un courrier leur invitant à nous rappeler.
Les personnes âgées, vous le savez, sont souvent sollicitées par tout un tas de démarcheurs au téléphone. Comment être sûr qu'elles vont décrocher ?
Alors c'est le challenge. C'est vrai que c'est pour ça que c'est une grosse mobilisation de l'assurance maladie parce qu'on passe beaucoup de coups de fil. Parfois les personnes ne répondent pas parce qu'elles sont pas là. Parfois elles hésitent. On sent qu'elles sont un peu craintives. Et puis mais parfois et souvent même quand même, elles disent oui. Il y a un déclic. Donc c'est pour ça que voilà, c'est ce qu'on fait vraiment tous les jours. Plus de 30 000 appels par jour la semaine dernière. On va continuer à monter en puissance. Mais on essaye aussi de les rassurer. On a formé nos personnels pour leur expliquer pourquoi on les appelle. Et on voit que ça marche. Mais c'est vrai que c'est une mobilisation très forte. Et qu'il faut faire beaucoup d'appels pour obtenir, entre guillemets, un rendez-vous.
Alors, il y a ceux qui n'ont pas réussi à prendre rendez-vous au départ et qui sont passés au travers des mailles du filet, mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et qu'allez-vous leur dire ?
Écoutez, nous, on n'est évidemment pas là pour forcer les personnes. Généralement, ce qu'on suggère, si une personne ne veut pas, c'est qu'elle en parle à son médecin traitant, tout simplement.
Donc, vous allez leur proposer un rendez-vous de manière systématique, à tous ?
Ah oui, c'est vraiment le service. Le service, c'est vraiment, c'est pas seulement de leur dire, tiens, il faudra que vous alliez vous faire vacciner. C'est de prendre le rendez-vous. Voilà. On va vous fixer un rendez-vous, tel jour, telle heure, en tel centre.
Est-ce que vous allez proposer aussi, par exemple, de la vaccination à domicile? Parce qu'il y a des personnes très âgées, mais qui sont encore dépendantes, qui vivent chez elles, et qui peuvent pas forcément se déplacer chez le médecin.
Alors, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec notamment les infirmiers. Vous savez qu'à compter de cette semaine, les infirmiers vont commencer à vacciner.
Oui.
Et elles vont le faire dans leur cabinet, parfois, et elles vont aussi sûrement le faire à domicile, en effet, parce que on voit bien que c'est un public qui a besoin d'être accompagné et pour lequel l'intervention d'un infirmier peut être pertinent. Après, on s'est simplement dit, avec les représentants des infirmiers, qu'on leur laissait une semaine, 15 jours pour s'approprier l'organisation de la vaccination à domicile et voir comment l'assurance maladie pouvait en effet éventuellement faire le lien entre ces appels et l'intervention d'une infirmière. Il faut juste qu'on se cale bien avec le process, la tournée, comme disent les infirmiers, de leurs patients chroniques, notamment de leurs patients âgés. Mais c'est effectivement un chantier sur lequel on travaille et on espère déboucher assez rapidement avec les professionnels de santé là-dessus.
Voilà, l'idée c'est de ne laisser personne en route. Un mot des autotests. Ils débarquent aujourd'hui en pharmacie à un prix plafonné à 6 €. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas les rembourser ?
D'abord, on va le faire pour un certain nombre de publics, ce remboursement, puisque notamment tous les personnels qui vont justement à domicile, des personnes, pour les aidants, pour les personnes âgées, les personnes handicapées. Et puis également, l'État va également acheter des autotests pour développer justement des opérations d'aller-vers dans les écoles, dans les universités, dans les quartiers. Donc il y a toute une série de situations dans lesquelles il y aura une prise en charge publique. On va financer ces autotests. Mais il était aussi logique de dire, pour d'autres catégories de la population, voilà, si les gens veulent s'acheter des autotests, ils peuvent le faire à des prix raisonnables.
Sinon, ils vont faire un test PCR.
Ils peuvent toujours faire un test PCR dans un labo, un test antigénique dans une pharmacie, un médecin ou un infirmier. Donc honnêtement, l'important, c'est d'avoir une palette de possibilités de tests la plus large possible. Aujourd'hui, on teste plus de 500 000 à 600 000 personnes par jour. C'est considérable
c'est
dans
énorme,
notre pays.
Ouais.
Bah, les autotests, c'est un outil de plus.
Merci beaucoup. Merci Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'avoir été l'invité d'RTL Midi.
Merci beaucoup.
Roselyne Bachelot est de retour rue de Valois au ministère de la Culture. Elle avait été testée positive au Covid le 20 mars dernier et avait dû être hospitalisée pendant plusieurs jours pour de gros problèmes respiratoires. En Angleterre, c'est un peu the day after, le jour d'après. Après 4 mois de confinement, les pubs rouvrent leurs terrasses, les commerçants remontent le rideau et les Anglais, à l'image de Boris Johnson, traditionnellement décoiffé, vont aller se faire une petite coupe, Marie Billon.
Boris Johnson va se faire couper les cheveux pour avoir une tête présentable quand il rendra hommage au prince Philippe au Parlement tout à l'heure, mais par contre, il a dû renoncer à sa pinte aujourd'hui. Période de deuil oblige. Tout le monde n'a cependant pas fait le même sacrifice. Dans ce pub de quartier du sud-est de Londres, la première bière a été commandée à 9h06 précisément.
Cheers everybody, we're back in.
Santé tout le monde, on est de retour.
Very nice to be back.
C'est super d'être là, de pouvoir voir les amis, lever le coude ensemble. J'ai mis mon bonnet, mes gants, je suis paré pour le froid.
Il y a les habitués donc et quelques tables plus loin, c'est un groupe de jeunes, la vingtaine, qui se retrouve.
J'ai commandé un petit déjeuner anglais traditionnel et je suis très pressée. Ce qui m'a le plus manqué, c'est de m'asseoir avec mes amis. Mais je compte bien faire une tournée des pubs aujourd'hui. Ça n'a pas l'air très responsable, mais je crois qu'il faut le faire.
Les magasins qui rouvrent aujourd'hui semblent peu tentés ces jeunes qui avouent s'être bien habitués aux achats en ligne.
Reportage Marie Billon à Londres pour RTL. Dans un instant, un pataquès politique autour de la date des futures élections régionales. On en parle notamment avec Pascal Praud.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
La question du jour sur RTL.fr. Doit-on reporter une nouvelle fois les élections régionales ? Et vous allez, Pascal Praud, y revenir au 32-10 avec les auditeurs. En principe, les élections déjà reportées doivent avoir lieu les 13 et 20 juin prochains, mais le débat continue.
Bah, écoutez, on nous dit que l'école doit ouvrir le 5 mai. On nous dit que les restaurants doivent recommencer à la mi-mai. On nous promet le retour de la vie d'avant très rapidement, avec des millions de vaccinés. Et dans le même temps, on nous dirait que les régionales sont suspendues les 13 et 20 juin. Alors j'ai l'habitude depuis un an des injonctions contradictoires, c'est d'ailleurs ce qui rend fou. Mais là, c'est parfaitement antinomique, sauf à considérer que toutes les promesses sont fausses.
C'est-à-dire
que les écoles ne rouvriront pas, que les restaurants resteront fermés et que le gouvernement le sait. Et aujourd'hui, donc, il anticiperait aussi sur les régionales. C'est pourquoi on consulte les maires. Mais là, j'ai très mauvais esprit.
Oui, très mauvais esprit. Y a un consensus quand même sur les dates des 13 et 20 juin. Marie-Bénédicte Allaire, mais Emmanuel Macron a relancé les dés en demandant une consultation de tous les maires de France.
Oui, en fait, ça n'a rien à voir, hein, parce que le gouvernement n'a jamais lié son calendrier de réouverture et les régionales. Au départ, les régionales et départementales, elles devaient avoir lieu en mars. Mais en début d'année, au vu de la situation sanitaire, il a été décidé d'un commun accord, majorité-opposition, de les reporter à juin. avec tout de même une clause de revoyure après avis du Conseil sanitaire fin mars. Verdict, le maintien en juin est possible à certaines conditions. Consulté de nouveau, association d'élus et partis disent tous, on maintient. Jean Castex lui-même semble sur cette ligne, jusqu'à ce qu'on apprenne ce week-end que les préfets ont interrogé les 35 000 maires de France. Un sondage express réclamé par Emmanuel Macron malgré l'ampleur de la tâche. Alors, quand ressort-il et surtout, que va décider l'exécutif? Eh bien, réponse demain à l'Assemblée. Jean Castex doit donner sa position officielle avant un vote. En attendant, les associations d'élus accusent le gouvernement d'avoir peur du verdict des urnes et de chercher un prétexte pour reporter les régionales. Gérard Larcher, le président du Sénat, a déjà prévenu. Dans ce cas, il saisira le Conseil constitutionnel.
Et sur ce thème, on attend vos arguments au 32-10. Vous aurez la parole au 32-10 avec Pascal. À tout à l'heure, Pascal.
À tout à l'heure.
À Albertville, le tribunal administratif a donné son feu vert à la construction d'une école primaire musulmane de 16 classes. Or, l'association qui a obtenu l'autorisation, la Confédération islamique Miligorus, qui est aussi celle qui construit la grande mosquée de Strasbourg, n'a pas signé la charte des principes pour l'islam de France. Le maire sans étiquette d'Albertville, Frédéric Burnier-Framboret, se désole.
Cette école-là de 400 élèves, clairement, elle va créer la disparition d'autres écoles publique républicaine. Nous, c'est notre travail de tous les jours de permettre à tous les enfants d'avoir une éducation libre, éclairée, laïque et républicaine. Ce ne sera pas le cas puisque cette école est une école hors contrat et que du coup, on n'a aucun moyen de vérifier ce qui va y être enseigné. Et c'est là le problème.
Le maire d'Albertville au micro de Serge Puyot. Eh bien, c'est l'occasion justement de s'interroger. Marie Guerrier, quelles sont les règles aujourd'hui pour ouvrir une école ?
Alors, pour ouvrir une école, il faut être de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne, mais des dérogations sont possibles. Et pour diriger cette école, il faut avoir au moins 21 ans, avoir déjà exercé au moins pendant 5 ans des fonctions de directeur, d'enseignant ou de surveillant dans un établissement scolaire, fournir un extrait de casier judiciaire, envoyer une déclaration d'ouverture de l'école au recteur d'académie qui fera suivre cette déclaration au maire, au préfet et au procureur. Cette déclaration d'ouverture doit présenter l'objet de l'enseignement, le projet pédagogique, quel niveau scolaire, l'âge des élèves, le cas échéant, les diplômes qu'ils vont préparer. Il faut aussi fournir le plan de l'école et les modalités de financement. Les autorités ont 3 mois pour formuler une opposition à l'ouverture. Si aucune opposition n'est formulée, eh bien l'école ouvre automatiquement, sans autre démarche. Une école hors contrat n'est pas obligée de suivre les programmes de l'éducation nationale, mais elle doit permettre à ses élèves d'acquérir les connaissances du socle commun de compétences comme tous les autres enfants de France et ça fera l'objet de contrôle.
Et avec la loi séparatisme, qu'est-ce qui va changer ?
Alors cette future loi prévoit que les écoles hors contrat signent une charte sur les valeurs et les principes républicains. Le texte en cours de vote renforce également les contrôles, notamment sur l'origine du financement, et puis doit permettre aux préfets de procéder plus facilement à des fermetures administratives.
Merci Marie Guerrier. Après la guerre de l'eau, l'armistice. Les groupes Veolia et Suez, qui avaient mené une véritable guerre de tranchées depuis des mois sur le front financier, judiciaire et médiatique, ont finalement trouvé un accord en vue d'un rapprochement. Et en fait, Martial Lou, c'était surtout une question de prix.
Ben oui, les deux groupes ont fini par s'entendre sur un prix de 20,50 € par action, alors qu'on avait démarré à 18 €. Ça fait donc une rallonge d'1,4 milliard. La bourse est ravie de cette issue, bien sûr. Veolia et Suez sont les deux plus fortes progressions du CAC 40 en ce moment, à plus de 7%. Le feuilleton durait depuis fin août en fait, et on savait qu'il se terminerait plus ou moins comme ça d'ailleurs. Alors on va donc constituer un géant mondial de la propreté et de l'environnement avec des contrats aux quatre coins de la planète dans le traitement de l'eau, les déchets, le chauffage des grandes villes, les transports aussi. En France, les deux marques vont continuer à exister pour éviter une situation de monopole puisque Veolia et Suez sont les deux leaders du secteur. Suez continuera donc à exister dans l'Hexagone. Les actionnaires s'engagent à préserver les 30 000 emplois du groupe pendant 4 ans. C'est d'ailleurs ce que relève Bruno Le Maire à l'instant, puisqu'il se réjouit de cet accord qui préserve l'emploi, dit-il. Le groupe garde aussi son principal centre de recherche et de développement. L'objectif, c'est donc de maintenir une concurrence sur ce marché qui est très présent dans la vie des Français et puis auprès des collectivités locales.
À Martial You. Dans un instant, deux Français, le père Briand et la sœur Bordeaux, enlevés comme 5 autres religieux à Haïti.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Sept religieux catholiques, cinq haïtiens et deux français ont été enlevés hier en Haïti, près de la capitale Port-au-Prince. Un gang de ravisseurs dans ce pays en proie à une pauvreté extrême réclame $1 million de rançon. Parmi les religieux enlevés, le père Michel Briand, qui appartient comme quatre autres à la Société des prêtres de Saint-Jacques. Le responsable de cette confrérie, Paul Dossou, lui-même d'origine haïtienne, le connaît depuis 28 ans.
Pour moi, c'est un grand frère. On est très, très proche. C'est quelqu'un qui a un caractère très, très fort, hein, comme Breton, et qui se laisse pas aller comme ça. Je sais qu'il va tenir. Je sais qu'il va tenir.
C'est un missionnaire dur.
Il a été agressé par balle il y a quelques années en Haïti, c'est bien ça?
Oui, en 2015, il a été agressé. Il était venu en France pour en convalescence. J'étais toujours responsable à cette époque-là. Je dis, bon, Père Michel, après ce qui s'est passé, c'est bien. Peut-être que tu restes en France ou bien tu vas dans un hôpital. Non. C'était un nom catégorique parce que c'est son pays de cœur. Je suis uni avec lui par la prière. Je suis confiant qu'on va trouver une issue, oui.
Le témoignage du père Paul Dossou, recueilli par Sébastien Rouxel.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Quand la vaccination devient un spectacle, nous partons à Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne, où l'on vaccine en musique, au son des violons, comme un air de vie d'avant, Alice Marot.
En face de la scène, de grandes tentes blanches ont remplacé les gradins. Daniel a 72 ans, Patrick 64, ils patientent avant leur injection.
La musique, oui, c'est beau, hein. Oui, puis ça distrait un peu, c'est bien.
Franchement, c'est super. Il faudrait que ce soit partout comme ça. C'est qu'on n'est pas habitué à avoir une qualité artistique dans un lieu aussi lugubre. Et c'est merveilleux, quoi.
Quelques notes de Télémane qui calment aussi les angoisses. Marie-Laure est infirmière.
Oui, ils sont tous stressés. De se faire piquer, personne n'aime ça. Hein. C'est super, là, ça détend les gens, ils sont contents, ils écoutent la musique, pensant qu'ils ne pensent pas au vaccin. Ça leur change les idées, et avant et après, puisqu'après ils attendent un quart d'heure en salle d'attente, ils en profitent.
Debout sur la scène, la violoniste Rachel Welch en profite aussi.
Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu cette chance. Pour nous musiciens, c'est triste de ne plus être sur scène, donc aujourd'hui c'est une grande joie.
C'est le maire Damien Alouche qui a organisé l'opération pour redonner un peu de vie à sa ville, malgré la fermeture des commerces.
On a pu ouvrir un centre de vaccination il y a maintenant quelques semaines. Et l'endroit qui a été choisi, c'était la salle de spectacle. Donc c'était l'occasion rêvée de remettre en avant les artistes qui sont en difficulté depuis de nombreux mois maintenant.
Il compte continuer dans les prochaines semaines en invitant des musiciens de jazz ou des danseurs.
On vaccine en musique à Épinay-sous-Sénart dans l'Essonne. Un reportage d'Alice Marot. Ah, d'ailleurs, est-ce que vous allez vous faire piquer alors, puisque vous êtes éligible désormais?
Mais écoutez, je pense, parce que je suis comme tout le monde, j'ai pas
comme
envie.
Comme tous les plus de 55 ans.
Bah, d'abord, je vous remercie de souligner.
Mais ils savent ce que je les ai pas encore.
Mais d'abord, vous faites beaucoup plus jeune. Beaucoup
merci,
plus jeune.
Ça, c'est fait.
Non, mais je crois, oui, que voilà, je vais, évidemment, cher ami. Mais ça va être la question qu'on va poser aux uns et aux autres, c'est est-ce que les plus de 55 ans, vous avez une appréhension avec AstraZeneca, parce que c'est ce qui nous remonte du terrain. Les généralistes disent voilà, on a du mal à... alors qu'il n'y a pas plus de risques, statistiquement en tout cas, il n'y a pas plus de risques qu'avec Pfizer. Ça sera un de nos sujets. L'autre sujet du jour, évidemment, ce sera
les élections régionales aussi.
Bien sûr, exactement, les élections régionales avec la double injonction. Parce qu'on ne peut pas dire, moi je maintiens ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire d'un côté on rouvre les terrasses et les restaurants le 15 mai et dire on ne vote pas un mois plus tard. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans sanitairement, me semble-t-il. Je suis un esprit simple, convenez-en.
Mais tout à l'heure disait que ça n'avait rien à voir avec la situation sanitaire et que la décision n'avait pas été prise dans cette perspective-là. Mais vous avez raison de vous poser la question. Voilà, c'est tout. C'est à peu près le programme du jour.
Mais j'ai entendu la petite musique
oui,
de la météo.
Oui,
donc
parce que c'est le moment de rejoindre Louis Baudin.
Monsieur Baudin.
Il trépigne.
Oui,
ça, ça pique un peu quand même, Louis, aujourd'hui.
Le 15 avril, ça commence à suffire, les moins 5 degrés.
Ah, c'est ça. Mais pourtant, non, ça sera encore le cas aujourd'hui. Des températures largement en dessous des moyennes de saison. On devrait plutôt être aux alentours de 15 degrés dans la moitié nord, 19 à 20 dans le sud. Eh bien, on n'y sera pas du tout. Dans le nord, on ne dépassera pas les 8 à 12 degrés cet après-midi. Des endroits, on n'atteindra pas ces 10 degrés. Et puis dans le sud, on sera entre 12 et 16 degrés, y compris près de la Méditerranée. Alors tout ça, c'est vrai, avec un temps plutôt ensoleillé, quelques passages nuageux ici ou là, sans conséquence, mais donc une belle lumière. Il restera quand même un peu plus de nuages entre les Alpes et la Corse, avec là un risque d'averse, voire d'orage en fin d'après-midi. De la neige possible, des 500 ou 600 mètres. Et puis également au nord de la Seine, où quelques nuages vont circuler, apportant quelques pluies. C'est déjà le temps en ce moment sur la Picardie. Et puis pour les autres régions, donc toujours du grand soleil.
Bon, et demain Louis, les viticulteurs, les arboriculteurs vont encore passer une nuit blanche.
Exactement. Hein. Si la nuit est étoilée, ben, ça veut dire immanquablement encore des gelées demain matin. Ça sera le cas dans beaucoup de régions. Alors c'est vrai que dans le nord et le nord-est, les quelques nuages dont j'ai parlé au nord de la Seine circuleront. Ça limitera peut-être demain matin la baisse des températures. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Mais ces quelques nuages vont très vite circuler vers l'est. Donc en cours d'après-midi, ben, de nouveau, grand soleil pour tout le monde avec toujours des températures un peu justes pour la période. On sera entre 8 et 10, 12 degrés dans la moitié nord, de 12 à 16 ou 17 degrés dans la moitié sud. Il y aura toujours beaucoup de vent, Mistral et Tramontane atteignant facilement les 100 km/h, notamment dans la basse vallée du Rhône.
Oui, c'est poussif quand même. Merci Louis.
Très poussif. Oui.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Le vaccin, plus de 55 ans à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous faire vacciner. Nous sommes avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes concernée ?
Oui, concernée, oui, parce que je suis infirmière libérale, donc je m'occupe de pas mal de personnes âgées et d'autres à domicile. Donc pour moi, le problème du remède, c'est isolé drastiquement. Soigné avec les médicaments que l'on connaît.
Là, on est vraiment sur la vaccination des plus de 55 ans aujourd'hui. Mais je vous pose la question tout de suite après le flash de Christelle.
Testez-vous quand vous voulez, comme vous voulez. Les autotests débarquent à partir d'aujourd'hui dans une pharmacie sur 4. Pour l'instant, c'est la pénurie. Mais une arrivée massive est annoncée dans la semaine. Leur prix est plafonné à 6 euros, non remboursé, pour un résultat obtenu en une demi-heure maximum. Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent se faire vacciner à partir d'aujourd'hui avec le sérum d'AstraZeneca et bientôt celui de Johnson & Johnson. Les coiffeurs ont rouvert dès minuit en Angleterre après 4 mois de confinement. Les commerces lèvent le rideau et les pubs rouvrent leurs terrasses. En Grèce, les lycées rouvrent après 5 mois de fermeture. 2 religieux français et 5 haïtiens enlevés à Haïti. Un gang réclame une rançon d'$1 million. Les maires doivent dire aujourd'hui si oui ou non les élections régionales pourront avoir lieu au mois de juin. L'exécutif leur a demandé de se prononcer. Plusieurs associations d'élus accusent le gouvernement de vouloir reporter les élections par peur du verdict des urnes.
Les auditeurs ont la parole